voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre José Dayan. Ce soir, aimez les acteurs.
Bonsoir José Dayan.
Bonsoir Zoé.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Il y a des travaux?
Ah mais il y a des travaux dans tout Paris. Donc.
On va parler des acteurs aujourd'hui parce que c'est un peu le centre de votre désir de cinéma. Ça on l'a compris, on l'a entendu. Dans votre bureau, José Dayan, est-ce que vous pouvez nous décrire comment cette présence des acteurs est palpable? Parce qu'on a toute une série d'affiches, mais aussi de portraits, de photos.
Oui, il y a surtout des affiches, des très belles affiches originales, souvent des affiches qui viennent du Japon, parce que les affiches japonaises sont particulièrement élégantes. Il y a beaucoup d'affiches qui concernent les films de Jeanne Moreau, bien sûr. Et puis, il y a deux affiches de La Notée, non pas parce que La Notée est mon film préféré, mais parce que je trouve ces deux affiches très différentes et très belles graphiquement. Voilà. Il y a aussi une affiche d'Orson Welles dans Macbeth, parce que c'est un metteur en scène pour moi majeur, et c'est un cadeau que Christian Fechner m'a fait, parce qu'il avait une très très belle collection d'affiches. Il y a aussi des photos originales de Jeanne Moreau, là, vous pouvez voir. Et puis, il y a une affiche de Fantomas, parce que du Fantomas avec Simone Signoret, et c'est un Fantomas des années 48 à peu près, je crois, et j'adore le personnage de Fantomas, voilà. J'aurais adoré tourner Fantomas. J'étais assistante sur les Fantomas d'André Hunebelle avec Mylène de Mongeau, Jean Marais et Louis de Funès, mais c'était traité sous le mode de la comédie. C'était délicieux d'ailleurs, c'était très ludique. Mais moi, pour moi, Fantomas, c'est beaucoup plus noir. Et moi, ouais, j'adore Fantomas.
Jeanne Moreau, elle est prédominante ici. Vous avez beaucoup collaboré avec elle.
Oui, mais Jeanne Moreau. On va revenir un peu à ce qu'on disait hier ou avant-hier, je me souviens plus, on parlait de la Nouvelle Vague. Et moi, quand j'étais à l'IDEC, la Nouvelle Vague est arrivée, évidemment, je suis de cette génération-là, et Jeanne Moreau, elle est arrivée comme un soleil, parce qu'elle est arrivée avec son talent, sa sensualité, sa modernité, par rapport aux actrices qu'il y avait ne serait-ce que 2-3 ans avant. Donc Jeanne Moreau, oui, elle m'a marquée de façon extrême, au moment où moi j'étais à l'IDEC, et où d'un seul coup, je vous dis, elle est arrivée avec tout ce qu'elle trimballait de particulier, de cette beauté qu'elle avait qui n'était pas du tout une beauté classique. Comme disait, elle me racontait elle-même que quand elle a rencontré ce metteur en scène, dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, mais j'ai bien fait d'oublier son nom, elle avait fait des essais pour lui, et elle va dans le couloir du studio de Boulogne à la sortie pour voir ce qui va se passer, et lui sort et il dit à son assistant, elle est trop moche, elle fera pas de carrière. Et elle m'a dit, c'est ce qui m'a vraiment décidé à rester accrochée. Oui, c'était le metteur en scène qui a fait Marie-Octobre.
Ah, Vivier, Julien Duvivier.
Julien Duvivier, voilà, il s'était trompé.
Vous avez une affiche de Eva, qui est un film que... Il y a eu un remake récemment.
Ah oui, mais attendez, moi je ne veux pas entrer dans des discussions négatives, mais je pense que c'est extrêmement difficile d'envisager, après Jeanne Moreau et Lozé, de refaire Eva. D'ailleurs, le film n'avait rien à voir avec ça, il avait peut-être le titre, et je pense que c'était vraiment assez présomptueux. Comme d'ailleurs, je pense que c'est le même metteur en scène, c'est Benoît Jacquot, d'avoir souhaité refaire aussi le journal d'une femme de chambre. Bien que moi j'aime énormément Léa Seydoux, je trouve que c'est une actrice actuellement très intéressante, une des plus intéressantes selon moi. Mais enfin, je pense qu'on refait pas le journal d'une femme de chambre après ce film magique avec Jeanne, avec Piccoli et avec Buñuel.
Bien sûr.
Avec l'adaptation de Carrère, oui. Dans Eva, c'est un de ses plus beaux personnages, plus complexes, plus... Oui.
Et c'est un film un peu taillé pour elle, et notamment sur cette idée de la beauté, sur cette séduction très particulière.
De la séduction plutôt que de la beauté. De la séduction, c'est mieux que la beauté simple et bête, voilà. Parce que Jeanne, elle avait quelque chose de trouble. D'ailleurs, tous les grands acteurs ont quelque chose de trouble. Autrement, c'est comme une morne pleine.
Quand est-ce que vous la rencontrez pour travailler avec elle?
Alors, je la rencontre quand je décide justement de faire avec Gérard Balzac, et je dis que ce serait formidable qu'elle fasse Madame de Berny. Mais je n'ose pas l'appeler. Parce que précisément, pour moi, elle avait quelque chose d'inaccessible et de mythique. Et je dis, Gérard, est-ce que tu peux appeler Jeanne pour moi? Et il me dit, ok, ben viens me voir. Il prend son téléphone et il dit, elle était sur répondeur, il dit, allô Jeannette, c'est Gégé, est-ce que tu veux être Madame de Berny? Et il raccroche, il dit, ben elle va te rappeler, voilà. En effet, quelques jours après, Gérard me rappelle et me dit, ben tu peux appeler Jeanne, voilà son numéro. Donc je l'appelle, et puis, moi je suis quelqu'un de très impatient, comme vous avez pu le constater, et mais pendant un certain temps, elle annule tous les rendez-vous qu'elle me donne. Et au 10e rendez-vous annulé, ça n'aurait pas été Jeanne, c'est moi qui ai annulé le 11e, vous voyez, mais c'était Jeanne. Alors j'ai attendu. Et puis elle m'a donné rendez-vous dans sa maison de production, je me souviens, j'étais dans le hall, j'étais assis sur une espèce de banquette, il y avait la porte comme ça, une double porte qui était très proche de la banquette. Elle était dans son bureau, elle rentre dans son bureau, elle me regarde sans me calculer. Et puis, au bout d'une demi-heure, elle sort de son bureau, elle ouvre la porte. C'est ça, les actrices. Elle me dit, ah, vous étiez là. Voilà, j'adorais ça. Et on a commencé à discuter. Je suis allée la voir, j'ai envoyé un scénario. Je suis allée la revoir après qu'elle ait lu le scénario. Et elle m'a dit, je ne veux pas faire Madame de Berny, je veux faire la mère. Bah, je dis, vous ferez la mère. Voilà. Et puis elle me rappelle, elle me dit, je ne veux pas faire la mère. Mais pourquoi? Parce que je trouve que ce personnage si complexe, et c'est ça qui m'intéressait, n'est pas assez approfondi. Pour telle et telle et telle raison, je ne veux pas jouer ce personnage. Et elle avait raison. Et je lui dis, je vais appeler Didier Decoing. On va tenir compte de vos remarques. On va modifier le personnage. Elle dit, oui, mais moi je pars à Los Angeles tout à l'heure. Et je reviens au moment de votre tournage. Je lui dis, est-ce que vous me faites confiance? Elle me dit oui. Et quand Jeanne est revenue, eh bien, elle a fait la mère de Balzac, voilà. Et c'est comme ça que ma relation avec elle a commencé. Puis on n'a pas arrêté de tourner jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, enfin quelques années avant la fin de sa vie.
Alors, vous avez dit avec presque délice, c'est ça une actrice, dans ce moment où elle joue la comédie de la séduction. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire?
Mais c'est un jeu, vous voyez. C'est comme un jeu amoureux, quoi. C'est quelque chose de... Voilà, c'est... J'avance, tu recules, enfin bon, c'est comme ça, c'est ça la relation avec les acteurs et les actrices. Encore une fois, je vous disais hier que c'est un métier qui est absolument basé sur le désir. Donc le désir amoureux, le désir de filmer, le désir artistique, le désir au sens large. Et c'est une relation un peu comme ça, de chat et de souris. C'est intéressant.
C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe la première fois que vous vous retrouvez sur ce plateau avec elle?
Eh bien, la première fois que je me retrouve sur ce plateau avec elle et que le clap se soulève et que son visage apparaît, je suis bouleversée. Voilà, je me dis, c'est ce que je voulais. Elle est là, c'est merveilleux. Voilà.
Vous avez peur quand vous allez diriger Jeanne Moreau?
Mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je suis très heureuse. Voilà. Je suis honorée qu'elle soit là. Non, j'ai pas peur. On n'a pas peur. Moi, j'ai pas peur des fauves. Et les grands acteurs sont des fauves. Et moi, j'adore les fauves.
Vous n'êtes pas intimidée, c'est pas du tout ça le sujet?
Non, je suis admirative. Oui, non, pas intimidée, non.
Qu'est-ce que vous
savez, si vous êtes intimidée, c'est comme quand vous montez sur un cheval, il vous fait tomber. Hein. Non.
Il y a ce Balzac avec Jeanne Moreau, et vous avez fait plein de choses avec Jeanne Moreau. Vous avez même tenté des choses que vous n'aviez jamais tentées avec elle. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui vous a même poussé un peu plus loin avec elle.
Mais comme toutes les grandes rencontres, elles sont modifiantes. Si on n'est pas perméable aux rencontres qui vous bouleversent, vous n'êtes pas modifié. Si vous n'êtes pas modifié, vous êtes comme une espèce d'enclume. Et c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose d'inerte. Et c'est pas bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une amitié extrêmement forte, oui. On était très proches, on dînait deux fois par semaine ensemble pendant des années, on se parlait tous les matins. Oui, quand elle savait par exemple que je partais faire un tournage et que je prenais un avion le matin, j'étais en train de monter à la passerelle, elle me disait bon voyage, vous voyez. Voilà, on avait cette relation qui était au-delà d'une relation simplement d'un tournage. Parce que ce qui est beau aussi dans mon métier, c'est que on vit de façon intense pendant la période d'un tournage, et puis après, chacun va vivre sa vie, soit au théâtre, soit sur un autre film, soit avec un autre metteur en scène, soit moi avec d'autres actrices ou d'autres acteurs.
Il y a une descente après les tournages?
Ah oui. C'est comme un enfant, enfin, moi je vis comme ça, c'est comme un enfant qui joue, mais qui joue sérieusement. Vous voyez? Voilà. Donc il y a quelque chose de ludique, même si c'est complexe, même s'il y a des trucs qui fonctionnent pas, même s'il y a des soucis de, au dernier moment, de décors, de pluie, de je ne sais pas quoi, d'acteurs malades ou que sais-je, de grève ou autre chose. Mais globalement, un tournage, c'est extrêmement ludique et totalement sérieux. Donc c'est magnifique. Moi, j'ai à peu près 7 ans d'âge mental. C'est pour ça que j'aime tourner. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance. Ouais, il y a quelque chose de, et qui vous sort de la réalité, quoi. Comment vous dire? Encore une fois, cette réalité, honnêtement, qui est pas fascinante. Enfin, pour moi.
Je reviens à Jeanne Moreau. Je reviens à Jeanne Moreau, José Dayan. Puisque après cette collaboration sur Balzac, vous allez faire Les Misérables.
Avec
lui tailler un rôle sur mesure absolument incroyable.
Eh bien, un rôle qui existait, qui est la mère supérieure, où elle était merveilleuse. Oui, je fais Les Misérables avec Jeanne, et puis après, je fais Zaïd, ce fameux Zaïd pour Canal+, qui est cette espèce d'hommage à La Mariée était en noir, dont je vous parlais. Voilà. Et où là, d'un seul coup, autour de Jeanne, je réussis toute la fine fleur, réunis toute la fine fleur du cinéma français, c'est-à-dire Guillaume Depardieu, Julie Depardieu, Denis Podalydès, Stanislas Mérard, Mathieu Amalric. Donc, si vous voulez, c'était très amusant à faire, alors, pour le coup, Zaïd.
C'est une ancienne chanteuse lyrique.
Oui, une chanteuse d'opéra. Voilà. C'est pour ça que le film s'appelle Zaïd, parce que, en vérité, elle a été célèbre en chantant cet air de Mozart, qui est absolument magnifique d'ailleurs, et qui est dans le film, bien sûr.
Ça, c'était une intrigue que vous vouliez.
C'est une idée à moi, oui. C'est moi
une qui idée à vous.
Suggéré. Oui, bien sûr.
Avec de l'opéra.
Bien sûr. Ben, j'aime l'opéra.
Jeanne Moreau, vous avez fait deux choses avec elle que vous n'aviez pas osé faire ou que vous n'aviez pas envie de faire avant elle, j'ai l'impression. Vous avez monté un opéra et vous avez fait un film de cinéma.
Oui, non, mais alors attendez. Monter un opéra, c'est pas exactement ça. C'est Hugal, qui était directeur d'opéra, qui m'a demandé de mettre en scène Attila.
Attila de Verdi.
De Verdi, à l'Opéra Bastille. À ce moment-là, Jeanne Moreau venait de mettre en scène une pièce avec Ludmila Michael. Et elle m'a demandé d'aller assister à quelques répétitions. Et j'ai vu à quel point le fait de faire une mise en scène lui importait. Je lui ai donc proposé de co-mettre en scène avec moi. Voilà. Je dirais que je lui ai proposé ça d'une certaine manière pour lui apporter un projet de mise en scène qui pouvait lui plaire. Mais au départ, ce projet, on me l'avait proposé à moi. Pareil pour Cet amour-là. Le producteur Alain Sard m'appelle et me propose de faire un film. J'avais eu en effet beaucoup de succès avec Monte Cristo, avec tout ça. Et il me dit, Le Misérable, c'était en 2000. Et donc il me dit, voilà, je voudrais que vous fassiez pour moi un film, par exemple, Le Chien des Baskerville. Alors, bien que j'adore Conan Doyle, je lui ai dit non. Si je fais un film, je ferai avec Jeanne Moreau. Et je ferai Cet amour-là. Et il a accepté.
Cet amour-là, je veux qu'on s'y penche, parce que c'est quand même une aventure particulière pour vous à ce moment-là.
Oui.
C'est un film très assez incroyable et très personnel. Cet amour-là, c'est donc ce livre de Yann Andrea.
Oui, sur sa relation particulière, puisque le film s'appelle, et le livre, Cet amour-là, la relation particulière qu'il a entretenue pendant 15 ans à peu près avec Marguerite Duras.
Toute la fin de sa vie,
oui.
À elle.
À elle, bien sûr.
C'est un film très personnel à bien des égards, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, qui est une espèce de boucle de référence avec Jeanne Moreau. Jeanne Moreau qui a été très proche de Marguerite Duras.
Mais absolument. Et Marguerite Duras a écrit des pages magnifiques sur Jeanne dans certains livres. Et Jeanne a tourné en particulier ce très beau film dans lequel Gérard Depardieu regardait. C'était une des premières apparitions de Gérard Depardieu qui regardait une espèce. Il était vendeur de machines à laver le linge. Et il avait fait une séquence absolument extraordinaire. C'était Nathalie Granger, oui. Oui, très beau film. Et où Jeanne était magnifique. Elle était avec Lucia Bose, d'ailleurs, dans ce film-là.
Elle a joué dans Moderato Cantabile, qui est une adaptation.
Mais que Peter Brook a réalisé.
Que Peter Brook a réalisé. Et puis, elle est, et ça, vous allez nous en parler, d'ailleurs, la chanson est présente dans votre film, la fameuse India Song.
Ah ben oui, c'est magnifique, ça. C'est D'Alessio, c'est absolument merveilleux. Et à la fin du film, j'ai mis le duo chanté par Jeanne et par Marguerite Duras, oui. C'était bouleversant de faire ce film parce que, à la fois, on n'a pas voulu. Et là, on était tout à fait d'accord. Vous me disiez, c'est quoi la direction d'acteur? C'est pas vraiment ça. La direction d'acteur, c'est d'être d'accord sur une direction dans laquelle on décide d'aller ensemble. Et Jeanne et moi, on était absolument d'accord sur le fait qu'on ne voulait pas faire un biopic où physiquement elle était la reproduction identique de Marguerite Duras. On voulait que ce soit l'idée de Marguerite Duras. Et je trouve que c'était beaucoup plus fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, on n'a pas tourné à Honfleur, mais on a tourné à Dinard. On a un tout petit peu décalé les lieux. On a un peu décalé le personnage de Jeanne, qui interprétait Marguerite Duras, mais à la fois, je trouve que... Enfin, moi, je n'ai pas connu personnellement Marguerite Duras, mais les gens qui l'ont connue, à ce moment-là, il y avait, qui assistait souvent au tournage, une femme que j'adore, qui, hélas, maintenant, a disparu d'une maladie horrible, la maladie de Charcot, qui est Florence Malraux, qui était donc la fille de Malraux et de Clara Malraux, et qui était la meilleure amie de Jeanne Moreau, qui était aussi assistante, justement, sur Eva, dont on parlait tout à l'heure, et évidemment, Florence a très bien connu aussi Marguerite Duras. Et quand Florence était sur le tournage, elle me disait « c'est bouleversant, j'ai l'impression d'être avec Marguerite Duras ». Voilà.
Et c'est-à-dire que c'est à la fois Jeanne Moreau, c'est Marguerite Duras, c'est presque un espèce de... Ce personnage, c'est presque trois personnes en même temps.
Mais oui, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est trouble. Il ne s'agit pas de tourner cet amour-là de façon grandiloquente. Il s'agit de faire un film intimiste sur une relation... extrêmement particulière, presque secrète, entre deux êtres qui, pour des raisons, parce que ça ne s'explique pas, parce que c'était lui, parce que c'était moi, parce que c'était elle, parce que c'était moi, il y a une résonance qui fait que ces deux êtres, eh bien voilà, avaient cette proximité, même si la proximité était quelquefois violente.
C'est un film qui est scandé en permanence par la musique.
Oui, mais d'Alessio. Ou alors Hervé Villard qui a pris C'est fini. Parce que Marguerite Duras, elle avait aussi un côté midinette. Elle aimait beaucoup ce... Et j'adore la séquence où Jeanne est dans la voiture, où elle chante qu'après c'est fini, oui. Oui, j'ai aimé faire ce film.
Elle dit à un moment donné, Jeanne Moreau, qu'elle n'est pas du tout dans l'émotion, qu'elle est dans la compréhension de son personnage.
C'est vrai, parce que, si vous voulez, elle dit une phrase formidable. Elle dit, il faut pas être ému par le personnage, mais il faut être ému comme le personnage. Ça, c'est très fort. Souvent, vous voyez des acteurs qui se mettent plus ou moins à geindre parce que le personnage... Non, il faut se mettre complètement, si vous voulez, avec sa compréhension, son appréhension du personnage, son background personnel, il faut se mettre dans la peau du personnage. Et si le personnage est une tueuse, il faut être une tueuse, il ne faut pas avoir des gardes, dire, non mais je vais essayer de la rendre sympathique. Non, il faut rendre la réalité profonde du personnage.
Oui, et elle dit dans ce cas-là en plus sur Duras, sinon je suis dépassée.
Mais bien évidemment.
Parce qu'en plus c'est une amie, c'est une... Ce film-là, il a été, vous l'avez dit, il a eu un destin assez particulier parce que il a été très bien reçu par une partie de la critique, mais très bien reçu.
Par toute la critique.
Par toute la critique.
Oui. Unanimement par la critique. Et oui, bien sûr.
Qu'est-ce que ça a créé chez vous? Qu'est-ce qu'il a marqué, ce film, pour vous?
Il a marqué d'abord l'extrême bonheur de faire un film très personnel avec une actrice que j'admire. Et voilà, et qu'il soit perçu finalement comme il a été fait. Ce qu'il a marqué aussi pour moi, c'est que il est hors de question, depuis ce film, que j'aille faire un film au cinéma s'il ne m'exige pas autant que ce film m'a exigé. Voilà. Je ne ferai pas un film de plus. Si je n'ai pas une raison qui, d'un seul coup, de façon aussi violente que ce désir de faire ce film avec Jeanne, intervenait. Voilà.
Jeanne Moreau, elle nous a quittés il y a 2 ans.
Oui.
Elle a tourné jusqu'à la fin de sa vie.
Non, elle a... Les 3-4 dernières années de sa vie, elle n'a pas tourné. Et ben c'était comme ça, il n'y avait pas de sujet qui se présentait. Elle souhaitait tourner, elle aurait voulu tourner, je pense, jusqu'à la fin de sa vie. Mais bon, elle n'était pas malade, mais elle était fatiguée. Elle était... Oui, elle était... Enfin bon, elle a tourné. Elle est morte à 89 ans. Elle a tourné jusqu'à 85 ans. Quand elle a tourné Les Rois Maudits, elle avait 80 ans. Elle était extraordinaire.
Est-ce que vous la regardez encore beaucoup?
Non, je ne peux pas la regarder. Je ne peux pas. Si par hasard je zappe et que je tombe sur un film avec elle, je change de chaîne tout de suite.
Vous changez de chaîne?
Oui, oui. C'est encore une chose un peu trop fraîche pour moi. Non, je ne peux pas la voir. Non, je ne peux pas.
Est-ce que vous regardez ce que vous avez fait?
Non, jamais.
Vous ne regardez jamais?
Je regarde quand, au mixage, je regarde à une projection de près, je vais voir l'étalonnage, je regarde la diffusion, voir s'il y a un problème d'antenne ou que sais-je, mais je regarde jamais mes films après, non, jamais.
Vous les revoyez jamais ?
Ah non, jamais.
Parmi les personnes qui sont présentes dans ce bureau ?
Oui.
Jeanne Moreau, Catherine Deneuve.
Ah oui, Catherine Deneuve, c'est une rencontre très particulière et à laquelle je tiens beaucoup. D'abord parce que je trouve que c'est une très très grande actrice et je trouve que c'est une femme humainement merveilleuse. Elle est généreuse, elle aime la vie, elle est drôle, elle a de l'humour, elle a de la profondeur, elle a de la mélancolie. J'aime beaucoup cette femme. On a une vraie amitié, il se fait qu'on est toutes les deux balance. Tous les ans, à mi-chemin entre ma date de naissance et la sienne, on fait un dîner de balance. Et oui, j'aime beaucoup Catherine. J'étais très bouleversée par... Quand j'ai appris, j'étais en Guadeloupe. Il se fait que j'avais dîné avec elle le 1er novembre et que le 5 novembre, j'étais en Guadeloupe et qu'elle, le 5 novembre, elle a eu son AVC. Et ça m'a perturbée beaucoup. Je suis très heureuse parce que j'ai parlé avec elle la semaine dernière. Elle a retrouvé totalement son humour, sa voix, son débit très rapide, son rire merveilleux. Ouais, c'est une femme formidable.
Vous avez fait des liaisons dangereuses avec elle.
Oui, et je ferai autre chose avec elle. On veut faire quelque chose à nouveau ensemble. On ne sait pas quoi, mais on va faire.
Parlons des voix, une seconde, de ces actrices. Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, deux voix immédiatement identifiables.
Oh ben les grandes actrices, les grands acteurs, vous voyez, identifiables. Vous entendez un mot de Gérard Depardieu, vous savez que c'est lui. Il a d'ailleurs une voix extraordinaire. Vous entendez Catherine, évidemment. Vous entendez Fanny Ardant, c'est pareil. Enfin, elle déjà elle a quelque chose d'un petit peu plus affecté dans sa diction, donc c'est normal de la reconnaître tout de suite. Jeanne, évidemment. Jeanne, ce qui est très intéressant, c'est à quel point, et c'est vrai qu'elle fumait énormément, mais c'est à quel point sa voix s'est modifiée au cours des années, si vous voulez. Parce que quand on voit des premiers films de Jeanne, elle avait une voix beaucoup plus légère, beaucoup moins grave. Laurent Gérard, je sais plus comment il s'appelle, l'imitateur, oui.
Laurent Gérard.
Oui, Laurent Gérard. Elle a beaucoup imité, je trouve, de façon extrêmement vulgaire, personnellement. Mais elle avait... Moi, j'adorais la voix qu'avait Jeanne à la fin de sa vie. Elle avait cette espèce de voix un petit peu caverneuse, mais profonde. Et puis, elle avait une façon de prononcer les mots. Toutes les lettres existaient. Enfin, elle avait une façon de parler le français qui était extrêmement fine. Et intelligente, enfin, elle avait une façon de détacher les lettres, les syllabes, c'était magnifique. Et puis, par exemple, Isabelle Adjani aussi, on reconnaît tout de suite sa voix. Je veux dire, les grandes actrices ont quelque chose d'unique, qui fait qu'on ne peut pas les confondre.
Isabelle Adjani et Jeanne Moreau, c'est des actrices de théâtre aussi, très importantes.
Ah bah oui, bien sûr, mais Isabelle, elle a débuté, je crois elle avait 16 ans au théâtre, ou 17 ans, elle a été immédiatement la folie de Paris, quoi. C'était ce qui s'est passé avec elle aux Français et ailleurs, c'était colossal, c'était énorme. Je pense qu'aucune actrice n'a eu ça au début de sa carrière.
16 ans, même pas, 15 ans, École des femmes. Vous, José Dayan, le théâtre ?
Moi, je préfère le cinéma.
Ça vous intéresse pas tant que ça. Vous avez fait beaucoup de captations au début de votre carrière.
Oui, mais surtout de captations d'opéra. Moi, je trouve qu'il faut que le théâtre soit exceptionnel. Je trouve qu'il n'est pas souvent. Et voilà, c'est vrai que c'est intéressant d'aller au théâtre pour voir certains grands acteurs ou grandes actrices. Mais globalement, moi, je préfère les films.
Est-ce qu'il y a des acteurs, José Dayan, avec lesquels vous auriez aimé tourner, qu'ils soient vivants ou qu'ils ne soient plus là ? Ou avec lesquels vous aimeriez tourner aujourd'hui en ouvrant
Ah mais sûrement, par exemple, je trouve que Léa Seydoux est très très intéressante et j'aimerais tourner avec elle. J'aimerais tourner avec Benoît Poulvorde, mais je crois que ça va se faire. Il y a un acteur aussi que j'aime beaucoup, qui est Jamel. Et je voudrais tourner avec lui, je trouve, avec une inventivité incroyable.
Jamel Debbouze.
Oui, Jamel Debbouze. Je trouve qu'il a quelque chose dans le regard, il a une profondeur, il est très particulier. Oui, il me plaît beaucoup. Je n'aime pas les acteurs convenus.
Qu'est-ce que vous appelez un acteur convenu ?
Ah ben j'appelle un acteur convenu, comme ça, propre sur lui, qui fait bien son métier, mais où d'un seul coup, voilà, c'est comme si finalement il était un très bon banquier ou un très bon vendeur de voitures, je ne sais pas. Il n'y a pas la flamme en plus, il n'y a pas le truc en plus qui d'un seul coup vous bouleverse. Il n'y a pas, au moment où moi il y a le clap qui se lève, où je suis en train de tourner avec un acteur, je me dis... Oh, mais c'est pas vrai qui, c'est pas vrai qui donne ça. Moi, par exemple, j'ai fait une scène dans le dernier Marlowe que j'ai tourné avec, ou alors le premier que j'ai tourné avec Isabelle, et il y avait une scène à la fin du film où elle était empoisonnée par un type, et elle avait donc des réactions très violentes, normalement telles que c'était écrit, par rapport à cet empoisonnement, qui après le fait qu'il ait d'ailleurs failli déjà l'assassiner, qui lui avait volé ses projets scientifiques et autres. Et surprise totale, elle a tourné cette scène comme une scène d'amour. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire, elle a tourné cette scène en faisant du charme au mec qui voulait la tuer. Donc pas du tout pour l'amadouer, mais pour le neutraliser. C'était extraordinaire. C'était le contraire de ce qui était écrit. Et d'un seul coup, c'est devenu une scène, pour moi, culte. Parce que, précisément, elle l'a attrapé à l'envers, quoi. Et alors, ce qui est le plus troublant pour moi, c'est que je tourne le film avec l'acteur, je monte le film, donc ça prend du temps, on est toute la journée sur les images, une image près, etc. Bon, bref, on fait le mixage, ok. Puis on voit le film fini, on fait l'étalonnage, bon, ça fait quand même beaucoup d'étapes. Puis on s'assied dans la salle et on présente le film. Et d'un seul coup, je découvre des choses sur l'acteur que je n'ai pas vues depuis le début.
Vous n'aviez pas vu au tournage ni au montage?
Ni à l'étalonnage, ni au mixage. Et d'un seul coup, il y a une révélation qui fait que, mais vous êtes bluffé, quoi. Vous dites, mais c'est pas vrai. C'est extraordinaire. C'est ce qui me trouble le plus, d'ailleurs, c'est ce... Oui, oui. Ce mystère qu'il y a chez l'acteur, qui fait que d'un seul coup, peut-être que ça le dépasse, peut-être que ça le surpasse, je ne sais pas. C'est une façon interne, c'est assez mystérieux, ce qui se passe chez un grand acteur.
Demain, nous parlons, José Dayan, d'une actrice que vous avez presque inventée. On parlera demain de Corinne Maziero, on parlera du Capitaine Marlowe et des séries. Merci beaucoup, José Dayan.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec José Dayan. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Arthur Dumont, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.